Donc, on accueille Amine Mokhtar Benounane de Pontoise, responsable médical de la PASS de Pontoise. Olivier Ozas, responsable médical de la PASS de Besançon. Dominique Grassineau, responsable médical de la PASS de Marseille. Et Céline Duverger, assistante sociale à la PASS de Nantes. Et Aziz Tabouri, d'ISM Interprétariat, et moi-même pour assurer la modération.
Bonjour, Amine Mokhtar Benounane, je suis médecin à la PASS de Pontoise, donc dans le Val d'Oise, en Île-de-France. C'est une PASS qui existe depuis, qui a ouvert ses portes en décembre 2000, donc bientôt 12 ans. Une petite dizaine de personnes y travaillent. On a une file active de 800 patients et on fait un peu plus de 6000 passages par an. Donc c'est une PASS moyenne, un peu grande peut-être, mais. Et donc, ce qui n'a rien à voir d'ailleurs avec ce que j'ai à dire, je me posais la question de l'obligation de moyens. Alors qu'on sait bien que souvent, trop souvent, peut-être même presque toujours, les structures, ces structures-là, les PASS, sont assez mal financées. Donc on se retrouve confronté à un problème où on a une obligation de moyens. Que l'on se réfère à son éthique, à tout ce qu'on nous raconte, au serment d'Hippocrate, à notre code de déontologie, à la loi et à toutes les interprétations qu'on pourrait en faire. Et on aura toujours cette conclusion que nous avons vis-à-vis du patient, d'une part, mais aussi de la société, une obligation de moyens. Alors, l'un des principes de l'éthique, puisque c'est le sujet de ce colloque, est pour moi universel. On en a d'ailleurs discuté quand on préparait ça, et pour moi, universel, autrement dit, au-dessus de l'espace et au-dessus du temps. Ce que je veux dire par là, c'est que l'éthique du médecin de Pontoise de 2012, donc moi, n'est pas très différente en fait de celle d'Averroès à Cordoue au XIIe siècle. Et elle est assez bien résumée par Hippocrate, donc bien avant, au IVe siècle avant notre ère. Il suffit de lire le texte original du serment d'Hippocrate et puis tous ceux qui ont suivi et qui s'en inspirent, pour comprendre que nous devons en toutes circonstances œuvrer pour le bien du patient et seulement dans son intérêt. Après, vont se poser des problèmes dont on a parlé ce matin, c'est-à-dire que comment définir ce qui est bon pour le patient? Est-ce que c'est ce qu'on pense être bien pour lui ou est-ce que c'est ce qu'il exprime? Là est toute la difficulté. La médecine n'est pas forcément plus technique. Elle fait appel à des technologies qui sont de plus en plus coûteuses, de plus en plus performantes, mais elle n'est pas plus technique, hein. La médecine reste ce qu'elle est. Et pour bien soigner, il faut très souvent avoir recours à ces procédés, donc disposer de ces moyens. Alors, que devient donc cette fameuse obligation de moyens quand les moyens ne sont pas mis à notre disposition? Cette question que je pose pourrait à première vue n'intéresser que les personnels des PASS, les médecins, les infirmières, les assistantes sociales. Mais en fait, je pense que dans peu de temps, très bientôt, tous les médecins, en tout cas la plupart des médecins de France, devront se la poser. Parce qu'on vit dans une société qui devient de plus en plus pauvre, qui se paupérise. En même temps, on constate que le reste à charge est de plus en plus important. On voit bien que la sécurité sociale se désengage. Et il n'y a pas que dans les PASS qu'on va se poser cette question. Un médecin de ville sera amené à se demander est-ce que je vais pouvoir prescrire tel examen à tel patient qui n'a pas de mutuelle? Est-ce qu'il sera capable de payer tel examen? Est-ce qu'il sera capable de se payer des traitements? Parce que, évidemment, de moins en moins de médicaments seront remboursés. Je peux vous sembler pessimiste, mais c'est ce que je pense. Donc, c'est un problème qui nous concerne en tout premier lieu, mais qui pourrait concerner un peu tous les médecins. Et en ça, je pense que c'est une véritable question éthique. Il faut savoir que dans beaucoup d'hôpitaux, ce qui est le cas de l'hôpital de Pontoise, l'accès aux plateaux techniques et aux consultations spécialisées est systématiquement facturé. Donc, quand on reçoit un patient, tout ce qui se passe chez nous, donc à la PASS, est gratuit. Dès qu'il rentre à l'hôpital, là, on commence à facturer. Et là, va se poser un dilemme. Est-ce que je vais exercer mon obligation de moyens en sachant qu'il va en résulter une facture qui sera certainement très lourde pour un patient qui a déjà de grosses difficultés financières? Ou alors, est-ce que je peux me permettre de temporiser, d'attendre qu'il ait une couverture sociale, souvent en bricolant entre-temps, ou en ayant recours à des solutions un peu moins coûteuses, mais souvent moins efficaces. Donc à Pontoise, il y a cette structure, hein, un peu comme dans beaucoup d'hôpitaux, qui accueille toutes les personnes en difficulté. Et comme dans la majorité des PASS, le choix a été fait dès le départ de prendre en charge tous les patients qui ne peuvent pas se soigner normalement ailleurs. Comme dans la plupart des autres PASS, cette prise en charge, elle se veut globale, physique, psychologique, sociale, c'est ce qu'on dit à chaque fois ici. Et on se préoccupe aussi bien des plaintes du patient que de son hébergement, du retour à l'emploi, de la régularisation pour les sans-papiers et de bien d'autres choses. Donc je vous décrivais un peu la PASS de Pontoise pour vous donner un exemple. En MIG à peu près, on reçoit un peu moins de 38 000 euros par an. En fait, quasiment le salaire de la secrétaire. Et pour le reste, il va falloir qu'on se débrouille. Alors on a fait des montages comme ça, on a un peu bricolé, donc on sollicite la cohésion sociale, le conseil général, et on essaye de boucler le budget. Mais le choix qui a été fait par l'hôpital, en tout cas depuis le 1er janvier 2003, c'est de participer au financement de la PASS, mais de ne pas permettre l'accès gratuit aux plateaux techniques ni aux consultations spécialisées aux patients qui n'ont pas une couverture sociale complète. Donc ce dilemme, nous, on le vit tous les jours, tout en sachant que le délai d'obtention pour la sécurité sociale ne fait que s'allonger. Moi, je me souviens, il n'y a pas si longtemps, notre assistante sociale, actuellement c'est un garçon, mais avant c'était une fille, faxait les dossiers à la CPAM et au bout de 10 minutes, un quart d'heure, quand le dossier était complet, on recevait par fax la notification et le patient avait tout de suite son ouverture de droit. Actuellement c'est impossible, c'est 2-3 mois, souvent 3 mois d'ailleurs, au minimum, et quand le dossier est complet. Alors, temporiser quelques jours, c'était déjà très compliqué et très risqué pour le patient. Quand on est obligé d'attendre plusieurs mois, ça devient inadmissible. Le problème, c'est qu'on est obligé d'accepter ce dilemme qui est évidemment inadmissible. Et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'on fait un peu une médecine, parfois, qui s'apparente à la médecine de catastrophe, parce que la médecine de catastrophe, c'est quoi? C'est quand on a beaucoup, beaucoup de patients à traiter avec des moyens qu'on sait de toute façon limités. Donc il va falloir répartir ce peu de moyens sur tous les patients. Autrement dit, moi je connais à peu près mon budget pour l'année. Si le premier patient qui se présente le 2 janvier, parce que généralement on est fermé le 1er janvier, s'il n'a pas de couverture sociale, ce qui est le cas pour la plupart des patients qui se présentent, et qui nécessite des examens ou des traitements coûteux, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais flinguer mon budget? Non. Oui, d'ailleurs. Et je vais faire ce que ferait tout médecin, je le pense, c'est-à-dire mettre en œuvre tout ce qui est possible pour essayer de bien le soigner, mais en sachant que les mois qui vont suivre risquent d'être difficiles. Alors, on a plusieurs cas de figure. On a les diagnostics simples, qu'ils soient graves ou pas graves. Diagnostic simple, pas grave, on temporise. Diagnostic simple, grave, on appelle le docteur Patrick Deschamps, qui est là, qui est chef service des urgences. Et lui, systématiquement, il dit, bon, ben, tu l'envoies, il n'y a pas de problème. Et puis, il y a le reste. Le reste, c'est quoi? C'est quand on ne sait pas. Parce que ça arrive, et ça arrive assez souvent. Donc, on a besoin d'examens complémentaires pour... elle est là. D'examens complémentaires pour affirmer ce diagnostic. Je vais aller très vite, il ne me reste pas grand-chose. Je vais placer un petit cas clinique, parce qu'il faut bien que j'en place un. Donc... C'est l'histoire d'un Malien de 28 ans qui se présente un jour et qui décrivait des sortes de malaise. C'était pas très bien défini. Il insistait surtout sur des céphalées, des insomnies. Donc un discours assez habituel. Il décrivait ça avec ses mots. Donc chez quelqu'un qui vit mal, le déracinement, les conditions d'accueil abominables, le manque d'argent et toute la désillusion qui va avec. Et quand on l'examine, l'examen était pratiquement normal. J'aurais pu le laisser partir avec un traitement symptomatique, des antalgiques, éventuellement des anxiolytiques, et en lui disant, ben, dès qu'il a une couverture sociale, on allait lui faire tous les examens qu'il nécessitait. Il m'aurait dit, mais moi je les veux tout de suite. J'aurais dit, non, ça va vous coûter très très cher, monsieur. Sauf que ce jour-là, au lieu de laisser partir, je ne sais pas pourquoi, j'appelle donc le chef de service des urgences et je lui dis, écoute, je ne le sens pas. Ce n'est pas très rationnel, on peut appeler ça le flair. Je l'envoie, on lui fait un scanner en urgence et il passe quasiment du scanner à Sainte-Anne où il est opéré en neurochirurgie pour une tumeur et actuellement il va mieux. Donc la question c'est, entre-temps et dans le futur, combien je vais en laisser passer qui nécessiterait des soins urgents sur des pathologies graves ou rapidement évolutives. J'espère aucun, mais ça je ne peux pas en être sûr. Donc pour conclure, on sait que l'EPAS, et là on le dit et on dit qu'on est en train de rechercher un nouveau. On développe une médecine plus proche du patient, plus globale, moins onéreuse. C'est une excellente chose. Par contre, qu'on nous demande de faire plusieurs médecines, ça, évidemment, c'est inadmissible. Je vais conclure un peu ce qu'on entend depuis ce matin, c'est-à-dire qu'effectivement, nous, on pourrait initier ce changement pour avoir, justement, une autre façon d'exercer la médecine, une autre façon d'autres choix à faire, justement en ayant recours à une médecine moins onéreuse, plus efficace et pour mieux soigner tout le monde. Merci.